Dans la période d'été, lorsque j'ai apporté des paroles, j'ai fait le choix, ces dernières années, de revenir sur des textes que j'appelle des textes très connus, qui font tout de suite référence à certaines choses et qui nous parlent parce que, en fonction de notre marche avec le Seigneur, ils ont marqué notre esprit. Et j'aime bien les reprendre pour essayer de les revisiter ou de leur, pour moi d'abord, leur donner une nouvelle fraîcheur. Et puis, je cherchais cette semaine, sachant que je vais, de manière exceptionnelle pendant mes vacances, apporter une parole ici, à Kevin, je cherchais un texte. D'habitude, on est toujours avec Francine à aller à la découverte d'autres assemblées. Puis là, cette semaine, on a fait le choix d'être ensemble à Kevin. Et je suis arrivé sur un texte. Et quand je l'ai lu, je dis, ah, pas celui-là. Pas celui-là. Alors j'ai cherché autre chose. Je dois vous dire, j'ai des textes, vous savez, le fils prodigue dont on a tellement entendu parler cette année. Tout le monde a prêché dessus. Je me suis dit, tiens, je repartirai bien sur le fils prodigue. Ou sur des textes comme ça, vous savez, très très connus. Ah bon? Et puis je suis revenu à ce texte. Et je dis, oh non, pas celui-là, parce que je sais bien que quand je vais le lire, tout de suite dans la pensée, dans ma pensée comme dans la vôtre, va se dessiner cette impression. Oui, c'est toujours facile de dire ça quand on est devant et quand on ne sait pas, quand le prédicateur ne sait pas ce que je vis. Hein, c'est facile pour lui de le dire. C'est dit, donc je vais pas prendre le risque, n'est-ce pas? Puis finalement, au fil du temps, je suis revenu à ce texte et on va le lire ensemble. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et à partir du verset 25. Mais le texte clé, vous verrez, c'est le verset 29 et 30 qui nous pose toujours un petit peu des soucis à recevoir. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et ce verset, tellement facile à dire quand on prêche, tellement difficile à recevoir quand on est concerné. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Et quand on est fatigué et chargé, il n'y a rien de plus énervant que d'entendre quelqu'un vous dire: vous êtes fatigué et chargé ? Venez et je vais vous donner un joug à porter. On se dit, attends, Seigneur, tu n'as pas compris, je suis fatigué et chargé et tu veux me rajouter quelque chose? C'est souvent dans cette perspective que nous lisons ce texte-là. Et quand on est fatigué et chargé, c'est difficile à entendre. Alors quand j'ai préparé ce texte, quand je me suis arrêté dessus, je me suis dit, il est étrange puisque ce texte, je relisais plusieurs Bibles et il y avait une Bible que ma femme aime lire, que moi j'aime un peu moins, mais qui est celle que vous pouvez voir sur les genoux de Michel, qui est la Bible Scofield. Alors la Bible Scofield, c'est la parole de Dieu. Scofield, c'est le traducteur. Et il a fait toute une chaîne de références, il a mis des notes pour alimenter. Et j'avais besoin d'une Bible papier et non pas informatisée. Donc j'ai demandé à ma femme de me prêter sa Bible Scofield. Et dans les notes, j'ai lu que ce verset-là, ce passage-là, était un passage presque qu'on appelle une césure, un moment de bascule dans l'évangile de Matthieu. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est à partir de ce passage-là que Christ ne s'adresse plus à Israël ou au peuple d'Israël, il s'adresse à toutes les nations, païens y compris. C'est à partir de ce texte-là. Avant, l'évangile de Matthieu est un évangile qui est à destination, on pourrait presque dire exclusive, d'Israël et des Juifs. C'est pour ça que cet évangile qui se trouve, et je trouve que c'est pour le coup une bonne position de cet évangile, qu'il soit le premier entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce que dans l'esprit de Matthieu, vous connaissez ce personnage qui a été appelé par Christ alors qu'il était en train de récolter les impôts pour les Romains, et c'est un homme qui était un traître pour Israël. Et quand Christ l'appelle, eh bien sa pensée à lui, ça va être de raconter ensuite l'histoire de Jésus en tant que Messie à destination des Juifs. Un message qui vise à dire au peuple juif et au peuple d'Israël, le Messie que vous attendez depuis plusieurs siècles, le voici, il est là. Et c'est pour cela que l'évangile de Matthieu commence, contrairement aux autres, à quelque chose qui nous échappe totalement à nous autres en termes d'intérêt, c'est de commencer par une généalogie. Effectivement, une généalogie pour nous, on aimerait rentrer plus vite dans le vif du sujet, hein, à la manière d'un Marc, d'un Luc, voire même d'un Jean plus tardif qui a écrit son évangile en dernier, mais qu'on rentre tout de suite dans la naissance de Christ, dans la venue du Fils de Dieu au milieu des hommes. Et Matthieu trouve important de commencer par une généalogie parce que s'adressant à des Juifs, il vise à leur dire d'abord, eh bien, vous qui attendez ce Messie, vous avez eu des signes dans la parole de Dieu. Et ces signes, c'était qu'il devait être descendant de David et donc démontrer par là qu'il était le Messie tant attendu. Une généalogie. Et jusqu'au chapitre 9 et 10, on a véritablement un Matthieu qui montre Jésus adressant sa parole au peuple d'Israël pour lui dire « Voilà ce que vous attendiez est là ». Au chapitre 9, verset 32, il est dit qu'à la vue des foules, mais des foules d'Israël qui étaient là, il en eut compassion. Il en eut compassion. Christ a eu compassion des foules, du peuple juif, qui était présent. Alors, il est dit qu'au chapitre 10, verset 1, il appela ses 12 disciples. Et il y a un verset qui, moi, m'a, jusqu'à ce que je rentre dans ce texte et que je comprenne quels étaient les enjeux, il y a un texte qui m'a choqué. Peut-être êtes-vous passé par-dessus sans y faire attention, mais au chapitre 10, verset 1, il appelle ses 12 disciples. Des disciples. Ses 12 disciples, et il les appelle en disant « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». Il dira même « N'allez pas vers les païens ». Moi, quand j'étais jeune et que j'ai lu ça, comment ça ? Et pourquoi est-ce que tu envoies tes disciples vers les brebis perdues de la maison d'Israël et pas vers les païens ? Parce que moi, je ne suis pas juif. Pour ceux qui n'ont pas constaté, je suis à moitié vietnamien et à moitié normand. Donc mes racines juives, si elles devaient exister, il faudrait que je remonte très 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 loin dans mon arbre généalogique. Et quand je lisais ce texte au chapitre 10, verset 1, je me disais, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu envoies tes disciples et que tu les envoies vers la maison d'Israël et tu déconseilles même d'aller vers les païens ? Et en fait, là, le message de l'évangile de Matthieu est un évangile qui est très bien construit. Et qui s'adresse à nous aujourd'hui encore. Parce que, quelque part, dans l'esprit de Matthieu, il y a cette volonté de dire au peuple juif, regardez, Dieu a voulu accomplir sa volonté et sa fidélité envers le peuple d'Israël. Et leur donner le temps, l'opportunité d'accueillir le Messie. D'accueillir le Christ. Alors, dans une première partie, effectivement, jusqu'au chapitre 10, on voit bien que Jésus s'adresse au peuple d'Israël, Jésus s'adresse à cette nation, à ce peuple, la maison d'Israël. Et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons que dans l'évangile de Matthieu, il y a comme un rejet de ce Messie qui était tellement attendu, tellement précisément annoncé par le Père. Ce qui fait que au chapitre 11, verset 16, nous voyons une condamnation jusqu'au verset même 24, d'abord avec ce passage très énigmatique où il est dit « À qui comparerai-je cette génération ?» Je la comparerai à des enfants assis sur les places publiques et qui appellent leurs compagnons en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. » C'est très bizarre comme histoire. Je ne sais pas si ça vous a un petit peu arrêté dans votre lecture en disant « Mais c'est quoi cette histoire d'enfant qui joue de la flûte ?» Et puis « Personne danse, personne se lamente. » Et puis derrière, il y a les reproches de Jésus aux villes dans lesquelles ont eu lieu la plupart des miracles. Chorazine, Bethsaïda, Tyr, Sidon, Capernaum surtout, en disant « Mais vous êtes condamnables parce que vous n'avez pas reçu ce qui vous a été annoncé. Vous avez vu des miracles ?» Et vos cœurs ne se sont pas ouverts. Pourtant, Dieu avait eu compassion et il a donné un temps à Israël, à la maison d'Israël, pour recevoir son Messie. On peut se dire, oui, effectivement, et regarder Israël avec un regard de pitié en disant, ah, il a bien raison, Matthieu. Plein de choses ont été faites et vos cœurs ne se sont pas ouverts. Des miracles ont eu lieu. Une parole a été annoncée et vos vies n'ont pas été transformées. Vous n'avez pas rencontré le Dieu vivant. Mais ce qui est vrai pour Israël l'est tout autant pour l'Église aujourd'hui. Dieu s'adresse à l'Église. Sa parole retentit dans le monde. Et pour autant, est-ce qu'elle est reçue? Il y a eu ce matin une parole qui a parlé de l'instruction de Dieu. Dieu cherche à nous instruire, à nous parler. Et est-ce que nous l'entendons? Est-ce que nos vies sont transformées par la parole que Dieu nous envoie? Si je devais compter le nombre de cultes et de réunions de prière auxquelles j'ai participé depuis mes 15 ans, c'est en milliers. Milliers. Et je dois reconnaître que parfois, je me pose la question, est-ce qu'à chaque fois où j'ai été présent sous le regard de Dieu, est-ce que je me suis laissé toucher, visiter, rencontrer par lui? Posons-nous la question. Il était dit à propos de Jésus, quand il a vu les foules qui étaient devant lui, il en a eu compassion. Est-ce que ce matin, vous êtes sensible au fait que ce matin, Christ présent ici, dans ce lieu, a compassion de vous et de moi. Est-ce que vous êtes sensible à cela? Ou bien, oui, bon, c'est un culte comme d'habitude. Hein, je ne m'attends pas à grand-chose, à passer un bon moment, à être touché par la qualité des chants. Malgré l'absence de beaucoup de musiciens, il a fallu faire avec. Mais le temps de prière, c'est toujours un temps agréable, de louange où je peux faire monter mon adoration. Mais est-ce que j'ai conscience que ce matin, Jésus a compassion de moi et qu'il veut me rencontrer? Est-ce que c'est quelque chose de présent, de vivant dans mon âme, dans mon cœur, dans mon être tout entier? Jésus a compassion de moi ce matin. Là, il devrait y avoir une vague de « Amen » pour une cotisante. Non, même pas. Alors, il est dit que au chapitre 11, verset 20, Jésus a commencé à condamner les villes qui avaient entendu parler du royaume de Dieu et qui ne s'était pas laissé toucher et conduire à une relation avec le Père, traverser un temps de repentance, de conversion. Est-ce que ce n'est pas parfois cela aussi qui nous bloque, qui nous met en difficulté, ne pas se laisser interpeller? Et pour Scofield, dont je parlais tout à l'heure, et en relisant tout le passage précédent, effectivement, on se rend compte que ce passage où il est parlé du joug, c'est un passage où tout à coup, Jésus dit, eh bien, vous avez eu un temps, vous, peuple et maison d'Israël, pour recevoir, et maintenant, je vais m'adresser aujourd'hui à tous ceux qui sont fatigués et chargés. Et il n'y a plus de frontière entre Israël et le monde. Tous, venez à moi. Il ne dit pas, venez à moi, peuple d'Israël qui est fatigué. Non, maintenant, venez à moi. La bonne parole, l'évangile, la bonne nouvelle est à ce moment-là ouverte à l'ensemble des nations. C'est un moment de césure dans l'évangile de Matthieu qui dit, eh bien, j'ai annoncé, maintenant, les portes sont grandes ouvertes. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Pendant les temps précédents et les 2 à 3 chapitres précédents, il y a comme une tentative des disciples, à aller vers la maison d'Israël, à aller vers les synagogues, ceux qui savent, qui connaissent la parole de Dieu, qui peuvent la citer, en parler, l'étudier. Et dit maintenant, eh bien, Seigneur, Père, ce qui est important, c'est ce que tu as révélé aux enfants, ceux qui ne sont plus dans une attitude de connaissance, de savoir, mais dans une attitude de révélation et d'accueil simple de ta parole. Alors, à partir de ce moment-là, si vous regardez attentivement dans l'évangile de Matthieu, Jésus s'adresse non plus et n'envoie plus des disciples mais des apôtres. C'est la première fois où dans l'évangile de Matthieu, il envoie non plus des disciples mais des apôtres, des gens qui sont envoyés pour lui. Il y a comme une ouverture, ils sont appelés et envoyés vers les nations. Première mention du mot apôtre. Et à partir de ce moment-là, l'évangile est ouvert. Il dira même, au chapitre 10, verset 16, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » C'est-à-dire que la maison d'Israël n'est plus le peuple auquel est adressée la bonne nouvelle exclusivement, mais elle devient même un territoire de loups, de gens qui, par leur savoir, finalement, n'accueillent pas la bonne nouvelle simple du Messie qui est envoyé. Il dira même au verset 17, « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans leur synagogue. » Les synagogues ne sont même plus présentées comme des espaces d'accueil, de révélation de la parole de Dieu, mais comme un espace de danger, parce que n'acceptant pas le Christ. Alors, au verset 16 et 19, il y a ce passage étrange. « À qui comparerais-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui appellent leurs compagnons en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Et nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » Étrange ce passage, non ? C'est quoi cette histoire de joueurs de flûte, d'enfants, etc. Et en fait, quand on lit attentivement ce verset, c'est une comparaison et ce moment de césure qui se passe entre Jean-Baptiste et le ministère de Christ. Et en fait, il y a dans cette forme de parabole ce désir de Christ de dire, eh bien, nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Jean-Baptiste a annoncé au milieu d'Israël un message de repentance. Un message de repentance et de conversion. Ce sont les enfants qui jouent des complaintes, des lamentations. Vous ne vous êtes pas lamenté, c'est-à-dire vous n'êtes pas revenu sur vos péchés. On a joué aussi un autre air à cette génération et vous n'avez pas dansé. Et la danse ici, ça parle du message de Christ qui, en parallèle du message de Jean-Baptiste, était un message de grâce, d'amour, de pardon. Que ce soit un message d'appel à la repentance, vous ne vous êtes pas lamenté. Que ce soit un message sur la grâce et le pardon qui vous est accordé en Christ, vous n'avez pas dansé non plus. Et ce message qui s'adresse à Israël s'adresse à nous aujourd'hui. Dieu nous appelle à nous lamenter sur notre péché, à être dans la complainte, à nous repentir. Et nous ne sommes pas lamentés. Et le message de Christ est un message qui dit, mais mon message est un message de grâce. Il ne s'agit pas de rester dans la lamentation. Il ne s'agit pas de rester dans la tristesse et l'abattement, mais de rentrer aussi dans ce message de la grâce. Et vous n'avez pas dansé. Et vous ne dansez pas. Il n'y a rien de pire dans une église qu'être une église qui ne se lamente pas sur son péché et qui ne danse pas, qui ne se réjouit pas du message de la grâce. Nous devrions le matin, pour les messieurs, attention en vous rasant, mais nous devrions danser au réveil, nous réjouir de cette grâce qui nous est faite du matin jusqu'au soir. Et vous n'avez pas dansé. Sommes-nous de cette génération-là? Sommes-nous de ces hommes et de ces femmes qui avons entendu et les lamentations, et la grâce, et les danses, et la joie du salut? Eh bien oui, nous le sommes. À des moments différents de notre vie, de notre temps. Alors quand j'ai commencé ce message, je me disais, je vais évoquer cela et travailler sur tout cette évolution du texte dans l'évangile de Matthieu. Puis je creusais, je lisais, et tout à coup je me suis dit, mais non, on ne peut pas simplement que lire ce passage. On ne peut pas simplement, essayer de comprendre ce que dit Matthieu, l'évolution de sa pensée, de son texte, de son message pour Israël, pour l'Église d'aujourd'hui. Non, on ne peut pas simplement le lire et le comprendre. Parce qu'à ce moment-là, nous serions comme ces sages, ces intelligents auxquels Christ reproche de rester enfermés dans la loi ou dans la compréhension du texte. Il faut être comme des enfants et vivre la parole de Dieu. Alors je vous le dis tout de suite, à la fin de ce message, pour ceux qui sont fatigués et chargés, il y aura un temps de prière. Laissez là aussi la parole de Dieu vous rencontrer, nous rencontrer, laissons cette parole nous rencontrer. Et à la fin de ce message, eh bien, ceux qui sont fatigués et chargés, qui se sentent concernés par ce temps de rencontre avec Christ, on pourra s'approcher et en église on priera ensemble. Ah! Zut. En plus, une parole qui engage, une parole qui oblige à me lever, éventuellement à me montrer, à dire « j'ai besoin de toi, Seigneur ». Ça, c'est compliqué. C'est dangereux. Ou c'est libérateur. Alléluia. Alors, le Seigneur s'adresse à cette génération et leur dit « quel que soit le contenu du message qui vous est adressé, vous ne vous êtes pas lamenté sur vos péchés, mais vous ne vous êtes pas non plus réjoui du message de la grâce. Christ apportait son message de salut, de joie et de paix, mais on n'en voulait pas non plus dans la maison d'Israël. Alors on lui a reproché d'être un ami des publicains et des pécheurs. Au chapitre 9, verset 19. Et ce n'était pas dit par dérision, c'était vraiment la réalité. Il s'approchait des pécheurs notoires. Il était venu pour les sauver. « Je ne suis pas venu, dit-il, pour m'occuper des bien portants ou ceux qui pensent l'être, qui sont bien engoncés dans leur religiosité, leur certitude de salut ou de relation avec Dieu et qui n'ont pas besoin d'autre chose. Je suis venu pour ceux qui ont conscience d'être malades, d'avoir besoin de moi. Est-ce que ce matin, j'ai besoin de Dieu. Est-ce que j'ai besoin de Christ? Comme Jésus était à table dans la maison, au chapitre 9, verset 10, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Je fais partie des gens de mauvaise vie. Je ne sais pas pour vous, mais je ne mérite rien de Dieu par ce que je suis. J'ai conscience de ce que je n'ai rien qui vaille la peine que Dieu s'arrête sur ma vie. Je fais partie des publicains, des gens de mauvaise vie. Il est venu vers moi, il s'est mis à table avec moi. Tout au long de ma vie, Christ a toujours été fidèle. Dans les moments difficiles, les moments plus faciles, il a toujours été présent. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il n'y a pas de pire malade que celui qui ignore sa maladie. Oh, pour les médecins, c'est galère. Moi, je travaille dans les addictions. Il y en a d'autres qui travaillent dans d'autres domaines. Mais un malade qui n'a pas conscience qu'il faut convaincre qu'il doit se soigner, c'est galère. Ça m'arrive dans mon métier d'avoir des patients. Ça me rappelle quelqu'un il y a quelques semaines qui était venu au centre pour se soigner et qui me disait dans mon bureau, vous savez, moi, je ne suis pas comme les autres patientes du centre. Hein. Moi, je n'ai pas de problème de dépendance. Je l'ai regardé, j'ai dit, alors vous êtes là pourquoi? Ah non, non, moi c'est parce que j'ai des difficultés, il faut que je gère, que j'apprenne à, etc. Ah mais non, mais je ne suis surtout pas comme les autres femmes qui sont ici, hein. Il faut qu'on soit d'accord. Alors là, pour des soignants, ça devient compliqué. C'est compliqué pour le Saint-Esprit. Lorsqu'il veut accomplir son œuvre de guérison, de transformation, d'être en face d'un homme et d'une femme qui dit, moi, je n'ai pas besoin. Ça va bien. C'est ça va bien. Hein? Combien de personnes vous demandent, alors ça va? Chaque jour, quand vous les croisez, vous le dites. Puis la réponse traditionnelle, c'est ça va. Et intérieurement, vous dites, je suis au fond du gouffre. Je suis en pleine souffrance et en plein mal-être. Mais je ne vais pas le lui dire. Il n'a pas le temps. C'est pareil avec le Seigneur. Écoutez votre cœur là maintenant. Est-ce que ça va? Où est-ce que tu as mal? Où est ta fatigue? Ton sentiment d'être chargé? Et le Seigneur, le Saint-Esprit te dit ce matin, comment ça va? Venez à moi. Pas à moi, moi Jean-Marc, mais venez à Christ. Viens à Christ. Et il répondra à tes besoins. Alléluia. Il y a eu ces reproches aux villes de Galilée, au verset 20 à 24. Des reproches que Dieu peut nous adresser aussi. Les villes qui ont été rejetantes du message de l'évangile, Capernaum et les autres, sont des villes qui étaient tellement convaincues de leur propre justice, de ce qu'ils n'avaient pas besoin de Christ. On peut penser parfois que les pasteurs ont des attitudes beaucoup plus spirituelles que les autres, que nenni. Je peux vous assurer que les pasteurs ou les responsables d'église sont comme les autres. Et moi, je sais que quand je suis confronté à des problèmes majeurs dans ma vie, ma première réaction, c'est d'essayer de m'en sortir tout seul. Tout seul. Je ne vais certainement pas mêler ma femme à cela, je ne vais pas solliciter l'église, je ne vais pas aller voir Michel, je ne vais pas aller voir un frère ou une sœur. Non, non, tout seul, d'abord, avec mes petits bras musclés. Parce que je suis convaincu, dans un premier temps, que ce que j'ai, ce que je sais, me suffit pour faire face. Jusqu'au moment où, fatigué et chargé, je baisse les bras et à ce moment-là, je me tourne vers Dieu. Dans la prière, dans la demande de son intervention, au lieu d'essayer de changer les choses par moi-même. Quand je suis allé au collège biblique, j'avais une vingtaine d'années, j'avais fait un deal avec le Seigneur. Vous n'avez jamais fait ça, vous ? Ne me regardez pas avec de grands yeux étonnés, hein ? Je suis comme vous. Je dis, moi je veux bien aller au collège biblique, Seigneur, ça va prendre des mois, à condition que tu t'occupes de ma famille, c'est-à-dire mes frères et sœurs, et surtout de mes sœurs. Tu t'en occupes et je suis parti, le cœur en paix. Je suis arrivé au collège biblique et au bout de 3-4 mois, 4 bons mois, j'ai eu des nouvelles de ma famille, j'ai appris des choses qui étaient difficiles à entendre. Je suis l'aîné de 8 enfants et je m'étais beaucoup investi dans l'éducation parce que mes parents étaient quelque peu démissionnaires, donc je m'étais beaucoup occupé de mes frères et sœurs et j'avais un sens du devoir hyper développé à leur rencontre. Et là, je partais, je les laissais. Et j'ai appris au Danemark qu'une de mes sœurs était en très grosse difficulté, a fait des choix de vie qui n'étaient pas ceux que je souhaitais pour elle. Et je me suis mis dans une colère. Pas contre ma sœur. Pas contre moi-même. Contre Dieu. Je dis, mais tu es où ? Pourquoi ? Et là, j'ai passé un temps, alors, 3 jours. Alors, j'étais un élève plutôt assidu au cours qui durait toute la journée. Et là, pendant 3 jours, plus personne ne m'a vu. Parce que pendant 3 jours, je suis parti dans la campagne danoise. Pour ceux qui connaissent sur le parcours de la Petite Suisse, un petit parcours de promenade qui s'appelait la Petite Suisse. Et là, pendant 3 jours, j'ai crié dans les champs. Crié de colère. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je dois rentrer, interrompre mon séjour, m'occuper de ma famille ? Et j'étais en colère. Et j'ai essayé de trouver des solutions par moi-même. Et il n'y en avait aucune. Convaincu que j'étais de devoir me former pour le service. Et en même temps, convaincu que j'étais responsable de mes sœurs, de mes frères, de ma famille. Et j'étais en colère. Jusqu'au moment, au bout de 3 jours de jeûne et de colère. Alors, je ne sais pas si c'est la colère qui a joué sur le jeûne ou le jeûne sur la colère, mais où tout à coup j'ai baissé les bras, j'ai lâché prise et je me suis tourné vers Christ en disant, c'est toi qui es Seigneur dans ma vie, c'est ce que je te dis. Alors sois le Seigneur et je t'abandonne cette situation-là qui pour moi est trop lourde à porter. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Maintenant, venez à moi, dit Christ. Je suis resté 3 ans au collège. Et le fait d'avoir abandonné, d'avoir vécu quelque chose du lâcher-prise où je disais, Seigneur, ce n'est plus moi qui dois changer et porter les choses, c'est toi qui agis. Dans le verset 25 à 30, il y a deux parties qui sont importantes. Parce qu'on pense à ce verset qui est au terme de ce passage, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Mais il faut savoir qu'on ne peut pas venir à lui d'abord si on n'a pas conscience que ce que dit Christ dans sa prière, c'est « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Or, le message qui suit « Venez à moi, vous tous » dépend de ce qui précède, à savoir de la révélation dans laquelle nous entrons d'une relation avec le Père. J'entends quelqu'un que je connais depuis des années dire « Moi, le Père ne me pose pas de problème, c'est le Fils. Jésus, j'ai du mal à le comprendre, à comprendre sa place, son rôle, etc. » Mais là, dans ce texte-là, ils sont là présents tous les deux. Alors on pourrait dire « Je vais m'approcher de Jésus. » Parce qu'il a cette dimension humaine que je comprends tellement. Mais en même temps, Christ dit, d'abord, pour pouvoir s'approcher du Christ, il faut aussi avoir reçu une révélation du Père. parce que le Père a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est le Père qui a accepté dans son ciel de gloire ce Dieu créateur qui a dit « J'envoie mon Fils par amour. » Parce que je veux que l'homme et la femme puissent retrouver une relation avec moi, leur Dieu, leur Père. Et ce, quand on est souvent, comme on le fait à la personne de Christ, en négligeant cette dimension-là, c'est négliger une part essentielle du salut. Ton Père a le désir d'avoir une relation avec toi au point de donner son Fils. Et le Fils, le but du Fils, c'est bien de me révéler le Père. Le Père. Qui est Dieu dans ma vie? Est-ce que ce matin, tu as besoin que le Fils te révèle qui est ton Père? Dans le livre du Lévitique, Dieu dit au peuple d'Israël, « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. » Oh, c'est un message pour Israël. On comprend très bien cela. Dieu qui s'adresse à un peuple qu'il a tiré d'Égypte, de l'esclavage, de la servitude, et qui lui donne la liberté. Mais en fait, ce verset-là, c'est un verset pour nous aujourd'hui, en Christ. « J'établirai ma demeure au milieu de vous, dit Christ, et mon âme ne vous aura point en horreur, dit Dieu. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et tu seras mon peuple. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays de l'esclavage. » Est-ce que j'étais esclave? Oui, j'étais esclave du péché. Est-ce que Dieu m'a libéré par le Christ crucifié à Golgotha? Oui, il m'a libéré. Est-ce qu'il m'a tiré de la servitude du péché? Oui, il m'a tiré de la servitude du péché. Est-ce qu'il a brisé les liens de mon joug? Oui, ce qui pesait sur mes épaules, qui m'écrasait, qui m'épuisait. Dieu m'en a libéré. Est-ce qu'il me fait marcher la tête haute?
Ça dépend des jours.
Ça dépend des circonstances. Ça dépend de la manière dont je vis les épreuves qui sont dans ma vie. Est-ce que j'ai la tête levée? Il y a tellement d'enfants de Dieu qui marche la tête basse, écrasée sous le poids. Oh, pas du péché comme on l'entend, mais quand même, est-ce que ce n'est pas du péché que de laisser le poids des épreuves me faire baisser la tête alors que Christ a un autre plan pour ma vie? Et c'est là que ce message sur le joug devient problématique. Je sens bien que j'avance sur un terrain délicat et difficile. C'est tellement facile à lui de dire cela, mais s'il connaissait ma souffrance, s'il connaissait le poids que je porte depuis tant d'années, je ne le connais pas. Il y a une phrase que je ne dis jamais aux patientes qui viennent dans l'établissement où je travaille, c'est « je vous comprends ». Je ne dis jamais ça, parce que ce n'est pas vrai. Je ne peux pas comprendre la souffrance d'une femme qui a été violentée, brisée, cassée dès son plus jeune âge. Je ne peux pas comprendre la violence subie, les pertes subies, les trahisons supportées. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre ce qui fait que un tel ou une telle dans cette assemblée porte le poids d'une vie abîmée, d'espérance déçue. Je ne peux pas comprendre parce que je ne l'ai pas vécu. De la même manière que vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai traversé. Mais il y en a un qui peut comprendre. c'est Christ. Lorsqu'il dit « prenez mon joug », il nous fait rentrer dans autre chose. Porter son joug tout seul, c'est renier l'œuvre que Christ a accomplie pour moi. Et ça, c'est du péché. Oui. C'est dur comme parole. Ne pas rentrer dans l'œuvre de libération, de liberté que Christ a prévue pour moi parce que je porte seul le poids de mes fardeaux, c'est du péché parce que c'est nier ce que Christ veut accomplir dans ma vie. Il est venu pour porter mes fardeaux avec moi. On connaît tous la fatigue. Nous connaissons la fatigue qui nous arrive après avoir travaillé dur, celle qui peut être une fatigue confortable, légitime. Mais là, dans ce passage, il parle d'une fatigue qui est celle du poids de la vie, des expériences. Jésus parle à une foule de juifs qui étaient guidés par les pharisiens, les maîtres religieux. Les pharisiens ont chargé des obligations insupportables sur les épaules des juifs. Tu devras faire, tu ne devras pas faire. Mais parfois, quand on est dans l'église, même les prédicateurs peuvent être quelque peu dictatoriaux dans leur enseignement. Ne faites pas, soyez comme cela. Ouais. Mais la parole de Christ, c'est venez à moi, et vous vivrez du repos en moi. La loi exige la perfection. On fait un faux pas et c'est terminé. Ah, combien dans l'église on a vu de pasteurs condamner l'attitude d'un tel ou une telle parce qu'ils avaient vécu de telle ou telle manière, parce qu'on repérait ceci ou cela. Et Christ dit simplement, venez à moi tel que vous êtes. Ce matin, tu peux venir à Christ tel que tu es. Quel que soit ton fardeau, quelle que soit ta fatigue. Les pharisiens ont fait empirer les choses. Ils ont fait de la loi un fardeau, ils ont ajouté des traditions humaines. Matthieu, toujours, chapitre 23, verset 34, dit « Il lie des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Est-ce que nous sommes comme cela? Prenez mon joug. Ah, c'est là qu'on se dit « Je suis fatigué, chargé, Seigneur, tu me demandes de prendre un joug supplémentaire. » J'en ai assez, tu sais. Moi, un de plus, c'est pas... Mais prends mon joug parce qu'il est différent. Le joug pour les animaux, c'était une poutre de bois. J'ai failli appeler Nicole cette semaine parce que Nicole m'avait prêté un joug il y a quelques années pour un mariage. Prêcher lors d'un mariage sur le fait qu'on doit porter un joug, j'avoue que c'était un peu osé. Mais en développant, j'ai montré que le mariage, ça peut être aussi un joug que l'on porte volontairement, qui nous lie, qui nous permet d'avancer ensemble. Alors, elle m'avait prêté un grand joug, puis j'ai hésité quand même. J'ai dit, bon, l'image risque de faire peur. Prenez mon joug. Le joug pour les animaux, c'est une poutre qui permet de lier et qui permet de travailler ensemble dans la même direction. On partage le poids, la charge, ensemble. Et puis, il y a aussi un joug qui est sur les hommes, vous savez, un joug individuel. Vous avez déjà vu dans les pays asiatiques, ces gens qui ont une sorte de grande barre en bois avec un seau rempli d'eau, un autre seau, et puis c'est équilibré, et puis on avance. C'est un joug. L'idée, c'est de porter de manière équilibrée le poids pour que les deux jambes puissent tenir, etc. On peut avoir de ces jougs. Parfois, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. On est là avec le Seigneur, on dit « Ça va Seigneur ?» Et puis on porte son joug tout seul, dans son coin, en équilibre, et on essaye de s'en sortir, comme je le faisais moi, ou comme je le fais parfois dans ma vie. Ce que Christ nous propose, ce n'est pas un joug où nous soyons seuls, mais où il est là pour porter avec nous. Prenez mon joug. Ça veut dire que ce qui pèse sur mes épaules, je dirais, il le porte aussi. Alors on connaît cette parole qui dit il n'y a pas d'épreuve que Dieu auquel Dieu nous soumette, qui ne soit au-delà de nos forces. Bien sûr, il y a cela. Mais il y a aussi cette volonté de Christ qui dit maintenant on rentre dans une nouvelle relation, toi et moi. tu ne portes pas ton fardeau seul, et mon joug est un joug léger, parce que ce joug, c'est un joug où moi, je te propose de changer de regard sur ce que tu vis. Est-ce que tu peux considérer que ce que tu as vécu, si tu l'as traversé, c'était aussi pour me permettre à moi de rentrer dans ta vie et de regarder les choses différemment? Parfois, nous avons nos regards tellement cristallisés sur ce que nous avons vécu, sur ce que nous vivons, que nous ne voyons plus les choses avec le recul sous le regard de Dieu. Ce que le Saint-Esprit nous propose, lorsque le Christ dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés », c'est que la révélation du Père dans ma vie me donne une autre perspective de mon existence, de ce que j'ai à vivre. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, prenez-le. Il n'y a pas de risque. Sinon, le risque d'avoir à côté de vous le Christ qui porte en même temps ce que je vis, ce que je suis. Est-ce que tu veux cela pour ta vie ce soir, ce matin? Est-ce que tu as ce désir? Prendre le recul et voir ce que j'ai vécu selon le regard du Christ. Prenez mon joug, car il est facile et léger. Je n'ai pas n'importe qui à côté de moi pour marcher. Je n'ai pas n'importe quoi à porter. Je porte quelque chose que je vois avec le regard de Christ. Même les expériences les plus traumatiques, même les situations les plus difficiles, je les vois au travers du regard de Christ. Et plus simplement, quand on regarde avec nos yeux humains, on a toute raison d'être inquiet. Et travaillant avec des personnes qui sont dans la dépendance, j'ai cette frustration. C'est de les accompagner vers un chemin de liberté par rapport aux produits, l'alcool, la drogue, etc. Et en même temps, je sais qu'il y a d'autres personnels soignants ici, et en même temps, parfois, qu'est-ce qu'on est frustré de ne pas pouvoir leur dire « Vous pourriez aller plus loin, et si vous rencontrez Christ, en plus, je dirais, votre chemin à venir sera complètement différent en ayant ce Christ qui marche à vos côtés et qui porte aussi le joug avec vous. » Et ça, on ne peut pas tous le faire. J'ai quelques temps de partage biblique avec quelques patientes qui l'acceptent, mais pour les autres, je ne parle pas de ma foi et de ma conception de la vie avec Christ. C'est frustrant. Parce que si je pouvais leur dire, venez à Christ, venez à Christ, puisque vous êtes fatigués et chargés, et il vous donnera du repos. Comment est-ce qu'on peut avoir du repos en portant un joug supplémentaire? Parce que il va le porter avec moi, parce que il va marcher avec moi. Et il va faire ce qu'il dit juste après, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le joug s'accompagne des instructions de Christ. C'est-à-dire qu'il nous donne du sens à tout ce que nous vivons. Mais son sens à lui, je ne le vois plus de la même manière. Ce que je ne voyais qu'avec mes yeux humains, mon cœur humain, mon intelligence humaine, tout à coup prend une autre dimension. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Si on prend que le joug, et c'est ce qu'on a entendu dans la parole, est-ce que tu es prêt à entendre les instructions de Dieu pour ta vie? Maintenant, ce matin. Alors, je ne vais pas aller plus loin, c'est déjà trop long, mais je propose à ceux qui sont fatigués et chargés de s'approcher tout simplement. Si vous êtes fatigué et chargé, on va le faire simplement. Si vous êtes fatigué et chargé, approchez-vous, asseyez-vous, et puis toute l'Église viendra autour de vous et on priera ensemble. Si vous êtes fatigué et chargé, faites-le de manière simple. Là aussi, recevoir les instructions de Dieu, c'est de les recevoir de manière simple et de suivre ses instructions. Il n'y a pas de démarche intellectuelle à faire. Asseyez-vous, on va rajouter des chaises, c'est pas compliqué. Approchez-vous. Voilà. Si vous êtes fatigué, chargé, venez à moi, dit le Seigneur. Alors faites-le, en toute simplicité. Alors, peut-être qu'on n'en a pas besoin. Auquel cas, on fait partie de ceux qui pourront prier pour ceux qui sont fatigués et chargés. Mais peut-être qu'on en a besoin et qu'on est comme Bethsaïda, comme Chorazim, et on a le sentiment que, voilà, pas maintenant, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Voilà. Je vais demander aux restants de l'Église de se lever, d'entourer toutes les personnes qui sont devant. Alléluia. On ne va pas imposer les mains.
Daniel puisse prier pour ceux qui sont fatigués et chargés. La manière Francine prie, que Jean-Louis prie, que Michel prie, que certaines personnes, qui si d'autres ont envie de prier, d'élever leur voix, chacun en simplicité. Moi, je dis tout cela, mais on est tous en capacité de prier pour ceux qui sont fatigués et chargés. Parce que Christ veut porter avec vous le joug de ce que vous portez tout seul. Être fatigué et chargé, c'est un indicateur. Un médecin m'a dit ça. Est-ce que vous êtes fatigué? Pas qu'un peu. Pas mon neveu, pas qu'un peu. Et il m'a dit, bon, alors on va chercher ensemble quelles sont les raisons de cette fatigue.
Que ce ne soit pas que... qui nous a façonnés dans le sein maternel, qui nous a appelés à la vie et qui a mis son souffle, ton souffle. Nous sommes des créatures, ta création. Et plus encore, nous sommes devenus tes enfants par Jésus-Christ et tu es pour nous un Père. Alors notre prière maintenant, c'est que tes mains bénissantes se posent sur chacun de ceux qui ont besoin de toi, qui ont reçu cette parole ce matin et qui se sont avancés pour être secourus, pour être délivrés, pour être soignés, pour être relevés. Père, au nom de Jésus, que maintenant cela s'accomplisse et qu'une œuvre parfaite se fasse en cet instant, dans les heures et les jours qui viennent, et que nous puissions nous réjouir pour les prochains témoignages de l'œuvre que tu auras accomplie. Notre foi est totale en tes paroles, et nous les recevons comme véritables, et nous croyons que ce matin, il était dans ta volonté d'œuvrer et d'agir en cette heure avec puissance. Au nom de Jésus, sois remercié, Père. Amen.
Amen.
Merci pour ce compagnonnage au quotidien. Merci pour ce dimanche. Avec toi et avec le Père.
Alléluia.
Merci de vous enseigner. Message, parce que ce monde, monsieur le Dieu, merci de Dieu, le cœur et l'esprit, l'intelligence pour comprendre quel est l'héritage, quel est le sens, quelle est la valeur que tu donnes à chacune de nos vies. Seigneur Jésus, merci parce que tu es celui qui nous tient debout, parce que tu es à nos côtés, tu marches à nos côtés. Tu es celui qui nous tient debout devant toi. Et Seigneur, nous voulons chacun par notre part nous lever de notre part pour toi, en toi. Merci de cette présence quotidienne dans toutes les difficultés, dans toutes les détresses. Merci de
manifester
ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Seigneur Jésus, nous comptons sur toi maintenant et jour après jour jusqu'à ce que tu reviennes. Amen.
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 Voilà, je viens à toi. Seigneur, je te demande, tu vas lever la voix maintenant là-dessus pour proclamer cette attente, ce geste de foi, que tu as maintenant en simplicité.
Oui, je viens devant toi, Seigneur, pour te remettre les soucis, mon fardeau, Jésus. Je viens à toi, Seigneur, pour être délivré de ce fardeau. Oh Seigneur, je te dis merci pour l'amour que tu me portes. Merci, Seigneur, pour l'attention que tu me portes. Et je sais qu'en cet instant, tu réponds, tu libères, tu enlèves ce jour de son église. Merci.
peur sans crainte, libéré de la peur et de la crainte. Merci Seigneur pour cette œuvre de libération que tu as faite. Maintenant, le poids que je porte ne me fait ni peur, ni ne génère de crainte, parce que tu es celui qui porte ton divin, qui donne tout son sang, toute sa lumière. Merci pour l'Esprit Saint qui vient d'être établi, qui m'a accompagné déjà dans ce que j'ai à vivre. Tu es Seigneur, tu es notre Seigneur, tu es notre Seigneur. Alors, grâce à ta vie, Seigneur, accompagne-nous, pour que cette œuvre que tu veux commencer aujourd'hui,
Amen.
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 Que le Seigneur nous bénisse.
Amen.
Je propose de repousser le chef et puis de rester un peu plus tard.